J'ai mis pour titre à ce message fondé, appuyé sur la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur a quelque chose à dire ce soir à quelqu'un en particulier, peut-être même à plusieurs personnes. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 18. On va lire quelques versets, je vais vous faire un peu lire ce soir. Des fois, je citerai, je vous donnerai les références pour ceux qui prennent des notes. Psaume 18, au verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. La version Louis II dit « Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole qui est un appui. » On peut s'appuyer sur la parole de l'Éternel. Psaume 84, verset 5. Ou 6 d'ailleurs, j'ai un problème avec mon... Psaume 84, verset 5. Ouais, c'est verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Un appui qui nous permettra de marcher parce que justement les chemins sont tout tracés. Pour cela, il nous faut placer notre appui en Dieu. Un autre verset qui va nous indiquer que l'appui est ferme. Proverbe 14. Proverbe, chapitre 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, un fondement solide, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. On y voit aussi tout le côté où finalement, quand je m'appuie sur la parole de Dieu, sur ce qu'il me dit, si je crains Dieu, non seulement j'aurai un appui pour moi-même, mais pour mes enfants. Alors, il s'agit bien sûr de nos enfants dans la chair, mais de nos enfants spirituels aussi. Tous ceux qui sont sous ma coupe, entre guillemets, qui par moi ont découvert l'Évangile et pour qui je suis une référence, je suis un appui quelque part, eh bien, il me faut craindre l'Éternel, parce que par la crainte que j'aurai de Dieu, je pourrai aussi être un appui aussi pour les autres. Jean, chapitre 1er. Vous savez que l'apôtre Jean décrit Jésus comme étant la parole. Et Jean, chapitre 1er, verset 14, il écrit ceci, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand il décrit la parole, il dit « pleine de grâce » et de vérité. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ce sont les deux volets, je dirais, de la parole. Malheureusement, on peut voir aussi certains qui ne mettent pas leur appui où il faut. Et on va lire ensemble quand même ce verset dans Jérémie, au chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est la conséquence de prendre la chair pour appui. On va finir par détourner notre cœur de l'Éternel. Je pose cette question, qui fait autorité sur mes décisions et sur mes choix. Selon le verset que nous venons de lire, on se rend compte que finalement, on peut faire notre part à nous est de faire des choix. C'est la part de l'homme. Et on choisit qui on écoute. Est-ce que j'écoute Dieu ou est-ce que j'écoute les hommes ? N'importe comment, si c'est moi-même que j'écoute, j'écoute les hommes. Tout simplement. Mais j'écoute quelqu'un. J'écoute quelqu'un. Et la personne que j'écoute, entre guillemets, a une autorité sur moi. Parce que je l'écoute. Ça veut dire que je me soumets. Ça veut dire que je vais prendre en considération ce que j'entends. Dans Ésaïe, chapitre 36, verset 6, là je vais vous citer deux versets. « Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Dans ce verset, on a l'Égypte qui est l'image des hommes et des femmes sur qui on peut prendre appui. L'Égypte est l'image de ce qu'est l'humanité sans Jésus-Christ. L'Égypte, c'est le monde. Celui qui s'appuie sur la sagesse de ce monde, il s'appuie sur un roseau cassé. J'ai cherché dans la Bible un autre verset qui parle du roseau cassé, et je vais le citer quand même parce que c'est dans un autre contexte, mais c'est intéressant de voir un peu le lien. Ésaïe, toujours, chapitre 42, verset 3, il est écrit « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. » J'aimerais vous dire que Dieu, même s'il parle d'un roseau cassé, il aime le roseau cassé. Dieu aime le roseau cassé. Et il a aussi donné sa vie en la personne de Jésus-Christ pour tous les roseaux cassés qui sont autour de nous. Mais la parole dit clairement que si je m'appuie sur le roseau cassé, je vais me blesser. Il est dangereux pour moi et je ne peux pas m'appuyer sur un roseau cassé. Le roseau cassé, pourquoi il transperce la main ? Pas parce que, oui, effectivement, il est cassé, donc c'est saillant un roseau qui est cassé. Mais s'il transperce ma main, c'est bien parce que je m'appuie dessus, on est d'accord ? C'est du bon sens que de ne pas s'appuyer sur un roseau cassé. Une personne qui ne connaît pas Dieu va peut-être nous donner des conseils. Et malheureusement, va pas forcément nous donner des bons conseils, selon ce que la parole nous enseigne. Et il nous est dangereux, quand on commence à écouter, de mauvais conseillers. Malgré tout, le Seigneur les aime. Et il ne veut pas les briser davantage, il veut les sauver. On va prendre un exemple. Il y a l'appui sur le roseau cassé, et le deuxième appui, c'est le bâton de la parole de Dieu. Le bon appui. J'aimerais citer d'abord ce verset qui nous parle de toute l'autorité. Je parlais d'autorité, justement, celui que j'écoute, c'est mon autorité, tout simplement, hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Celui que j'écoute fait office d'autorité, puisque je l'écoute. L'Écriture dit, la Bible dit, 2 Timothée 3,16, et c'est un verset, c'est un texte d'or qu'il faut surligner dans vos Bibles. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Ça, c'est l'apprendre par cœur. Pas pour qu'elle soit là, hein, mais pour qu'elle soit là, dans le cœur. Pour qu'au moment opportun, la parole que j'ai apprise puisse ressortir et sur laquelle je pourrais m'appuyer. Psaume 119, 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc quand je compare ces deux manières de s'appuyer, il y a un résultat. Soit mon appui est assez solide et il va me soutenir, ou soit mon appui n'est pas assez solide, et à l'inverse de me soutenir, il sera même l'origine de ma blessure, voire de ma chute. C'est par ce mauvais appui que je vais tomber, et cet appui-là pourrait me blesser. Mes frères et sœurs, chers amis, il ne faut pas nous appuyer sur des roseaux cassés, mais sur la parole de Dieu. Il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Alors, j'avais à cœur de... On peut lire ce texte, parce que c'est un personnage que je vais évoquer un petit peu. Dans Hébreux, chapitre 11 et au verset 21, on va parler d'un roseau cassé, mais qui s'est converti. Hébreux, chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Ici, on a affaire à un homme qui s'est toujours appuyé sur lui-même, sur ses propres forces. Quelqu'un qui a toujours cherché à tromper, à calculer. À un moment donné de sa vie, vous lirez Genèse chapitre 32, il se retrouve à un moment charnière de sa vie. Il va lutter avec l'ange de l'Éternel et il va le blesser à la hanche. Et suite à ce moment-là, l'ange va lui dire « Quel est ton nom ?» Et Jacob, lui, il en est à un moment de sa vie où il veut revenir à Dieu. Et là, quand il lui demande son nom, il joue carte sur table avec Dieu. Il dit « Je m'appelle Jacob ». Jacob, ça veut dire « celui qui trompe ». Et il se reconnaît devant Dieu comme étant un trompeur, comme étant quelqu'un qui a besoin d'une grâce de Dieu particulière. Et suite à ce moment-là, Dieu va lui changer son nom, ce qui va symboliser sa nouvelle vie qui va commencer avec Dieu. Mais il ne sort pas de ce combat indemne et il reçoit une blessure qui finalement lui sera salutaire, parce qu'à chaque fois qu'il s'appuiera sur son bâton, il se rappellera ce moment-là. Ce bâton, comme l'a dit Michael tout à l'heure, il parlait du bâton de Moïse, il a parlé du bâton de Dieu. Là, je parle du bâton de Jacob, mais c'est le même symbole. Il nous parle de la croix. Il nous parle de la croix, ce bâton. Et c'est quelque chose sur laquelle je vais vraiment pouvoir m'appuyer. La grâce de la croix dans ma vie. Je peux être comme Jacob et avoir fait des tromperies, m'être trompé. Je peux avoir calculé, manigancé. Je peux avoir essayé de me débrouiller sans cesse par moi-même. Essayer de calculer par rapport aux inquiétudes que je me fais. Bref, et avoir eu un chemin de traverse, comme on dit. Et pourtant, si je reviens à Dieu, Dieu veut me faire grâce. Il m'accueille les bras ouverts. Et alors que je m'approche de Dieu, par la croix, je peux avoir la grâce de repartir en appuyant, certes, en m'appuyant sur le bâton de la croix. Mais la croix me rappelle bien des choses. La croix me rappelle que si j'ai offensé quelqu'un, je dois demander pardon et je serai à mon tour pardonné. La croix, elle me rappelle que si j'ai été offensé, il me faut pardonner sans réserve. Et je serai aussi pardonné. La croix, elle me rappelle que si j'ai péché, je peux m'appuyer sur elle pour repartir, parce que je suis pardonné. C'est le message de la croix. C'est le grand pardon, parce que Jésus-Christ donne sa vie pour tous les hommes. La croix me rappelle à quel point je ne peux pas m'enorgueillir de quoi que ce soit. Elle me rappelle à quel point Jésus s'est humilié jusqu'à mourir parmi des bandits, de la pire des morts. La croix doit me rappeler l'amour que je dois avoir pour ceux qui sont autour de moi et que Jésus a aimé même ses ennemis, puisque sur la croix même, il demande à Dieu que tous soient pardonnés, ne sachant ce qu'il faisait. Par la grâce de Dieu, écrit Paul, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. La grâce de Dieu, c'est le bâton sur lequel Paul s'appuyait. Uniquement sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, par rapport à l'apôtre Paul, elle a une valeur toute particulière parce qu'il se décrit lui-même comme étant le pire des pécheurs. Lui qui était un terroriste se convertit et devient un apôtre. Il devient un apôtre, quelqu'un par lequel nous avons les deux tiers du Nouveau Testament. Si j'avance désormais dans la vie chrétienne, ce ne sera pas par mes propres forces. Il me faut m'appuyer sur la grâce de Dieu que j'obtiens sur la croix, à la croix du calvaire. Là où peut-être j'ai commis des erreurs, là où peut-être je suis tombé, parce que je suis tombé dans des pièges, le diable m'a tendu des pièges et je suis tombé, je me suis fait avoir. Ça peut arriver. Un chrétien peut tomber, un chrétien peut chuter. Dans la parole, il est écrit que celui qui est debout prenne garde de tomber, ce qui montre bien qu'on n'a pas à s'enorgueillir d'être debout, mais au contraire, à faire attention de ne pas tomber. Mais si je suis au sol, si je suis à terre, je peux compter sur la grâce de Dieu pour me relever. J'ai un bâton qui est à côté de moi, sur lequel je peux prendre appui pour me relever, alors que je suis au sol. Et c'est ce que le Seigneur m'appelle à faire. Le bâton de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, on voit bien que dans ce verset, dit très bien qu'il ne s'enorgueillit pas de quoi que ce soit. Il dit « Je suis ce que je suis. Je suis un ancien terroriste. Je suis un apôtre. Je suis un presque apôtre », il dira parfois. Il se sentait pas digne d'être appelé apôtre. Pourtant, il a fait du travail. Mais tout ça n'était qu'un seul résultat, celui de la grâce de Dieu sur sa vie. Et l'apôtre Paul, alors qu'il avait lui aussi ses luttes et ses combats, il savait s'appuyer sur le bâton de la grâce. Il savait s'appuyer sur la grâce de Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas et la grâce de Dieu est toujours la même. Et aussi souvent je serai au sol et aussi souvent le bâton de la grâce sera à côté de moi et je pourrai me relever. Ça, c'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Après, ça va changer un peu. Le roseau cassé de mes propres efforts, de mes calculs, de mes raisonnements, ne fera que me transpercer. Alors que le bâton de la grâce, il est, oui, bien solide, et je peux m'appuyer dessus. Et grâce à ce bâton-là, je vais pouvoir avancer et me relever, s'il faut, quand je suis tombé. Maintenant, comme on a lu dans Jean, la parole pleine de grâce et de vérité. Voilà le deuxième versant de la parole sur laquelle on s'appuie. J'aimerais juste vous poser une question. Qui est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu? C'est une grande question, ça. On lit des tas de choses dans la Bible. Souvent, on est d'accord là. Mais entre être d'accord là et être d'accord là, et s'appuyer, parce que qui dit que je m'appuie, sous-entend bien des choses. Vous savez ce que ça veut dire, s'appuyer d'ailleurs? Ça veut dire se fonder sur quelque chose, s'en servir comme base pour une action, ou une argumentation, pour si des fois on est dans des discussions, on prend un argument et on s'appuie dessus. Si je m'appuie là sur la chair et que je la pousse, si elle lâche, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber. C'est bête à dire, mais quand on s'appuie sur quelque chose, si ce sur quoi on s'appuie n'est pas solide, c'est la chute, c'est obligé. Mais ça prouve quand même quelque chose. Ça prouve que je me suis abandonné. Parce que si je tombe pas, c'est que je me suis pas appuyé dessus. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Si je prends rendez-vous avec Olivier, on se met d'accord, on se retrouve tel jour, à telle heure, à tel endroit. On se met d'accord? Donc selon ce qu'on s'est dit, je vais me rendre au rendez-vous. Maintenant, j'ai pris appui sur la parole d'Olivier qui m'a dit qu'il serait là à tel lieu, à telle heure. Maintenant, deux choses se passent. Soit Olivier est au rendez-vous, au bon endroit, à la bonne heure, soit il n'y est pas. Mais si je me suis appuyé sur ces paroles, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller au point de rendez-vous. Et s'il n'est pas là, eh bien j'aurais perdu du temps. J'aurais pris un risque. Vous comprenez? S'appuyer engendre le fait de prendre un risque. On s'imagine pas, quand on va s'asseoir sur une chaise, on pense qu'elle est assez solide pour nous soutenir, on est d'accord. Mais une chaise qui est un peu branlante, je pense que vous vous y prendrez à deux fois avant de vous asseoir dessus. Prendre appui signifie qu'il y a un abandon. Si je m'assois sur une chaise, j'abandonne, quelque part, je m'abandonne et je laisse la chaise me soutenir. Mais je prends le risque de tomber en m'abandonnant à la chaise. Est-ce que je m'appuie sur la parole de Dieu ? Qui est capable de s'appuyer sur la parole de Dieu ? C'est écrit. C'est écrit et c'est la vérité. Alors je m'appuie dessus. Est-ce que j'y crois ou est-ce que je m'appuie? C'est pas pareil. Vous savez quel est le premier point d'attaque du diable? Dieu a-t-il réellement dit? Première parole qu'il cite. Première question de la parole de Dieu. C'est le diable qui la pose. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question qui remet en cause l'appui. C'est une question qui va me faire raisonner pour éviter que je m'appuie et que je trouve le repos. Parce qu'on va voir que c'est là que ça nous amène. L'Écriture dit, 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quand Dieu dit quelque chose, il est lui-même lié par sa propre parole. Il ne peut pas se renier lui-même parce qu'il est la vérité et il est fidèle et il ne change pas. Donc une parole qui certes a peut-être été écrite il y a 2000 ans ou plus, Dieu ne changeant pas, ne pourra jamais faire autre chose. Et ce que vous trouverez dans la parole de Dieu ne changera pas. Et vous pouvez prendre appui dessus. Parce que Dieu est lié à sa propre parole. Il ne peut pas se renier lui-même. C'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous appuyer dessus. Et non pas nous pouvons, mais nous devons nous appuyer sur sa parole. Comme le disait Thomas, j'ai apprécié quand il l'a dit dimanche après-midi, des fois je ne comprends pas tout. Eh bien, même quand on ne comprend pas tout, on a compris beaucoup de choses quand on sait que même si on ne comprend pas, on peut s'appuyer dessus. S'appuyer dessus. Jésus, il a été tenté. Matthieu, chapitre 4, pour ceux qui prennent des notes. On va pas lire le récit, mais on voit que c'est exactement la même chose. Le diable ne change pas de tactique. Et vous savez, Jésus a pris son baptême, et au moment du baptême, le Père a fait entendre sa voix du ciel, et il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et comment attaque le diable? Si tu es le fils de Dieu. Ni plus, ni moins. Dieu a-t-il réellement dit? Ça ne change pas. Le diable veut nous faire douter de l'appui. Le diable, il veut nous faire douter et il ne veut pas qu'on s'appuie. Et si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, je vais me fatiguer. Jésus, dans chacune des tentations à laquelle il a été soumis, a répondu systématiquement par une parole de l'Écriture. Il est écrit. Et Jésus, il ne prononce pas ces paroles comme des formules magiques, attention. Il n'a pas eu le verset en disant « Tac, allez, c'est fini, et le diable est parti ». Non. Il s'est appuyé sur les versets. Il s'est appuyé sur l'Écriture. Certes, il l'a prononcé au diable. Mais quand le diable lui dit de changer les pierres en pain, et que Jésus lui dit « Mais non !» Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'a fait Jésus en même temps? Il a cité la parole, certes, mais après il a détourné son regard. C'est ça, s'appuyer. Et Jésus s'est appuyé. On voit quand il est tenté, il ne fait que s'appuyer sur la parole. Jésus exprime au diable toute la confiance qu'il a en Dieu, en son Père. Le diable continue. Ah, tu fais confiance au Père, d'accord. Alors il le met en haut du temple. Si tu lui fais tant confiance, vas-y, saute. Parce qu'il est écrit. Mais le diable continue son jeu. Mais Jésus, lui, comme il a serré la parole dans son cœur, un autre verset lui est venu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Jésus était au clair avec le diable. Et il savait s'appuyer sur la parole. Là encore, il n'a pas fait que sortir un verset du chapeau. Hein. Il s'est appuyé dessus. Et il a agi en conséquence. C'est ça, s'appuyer. Maintenant, regardons un peu en pratique. Dieu nous donne autorité sur le péché. Premier point. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis enfant de Dieu selon ce qui est écrit. Maintenant, je sais c'est écrit, est-ce que je vais m'appuyer oui ou non dessus? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que j'y crois là ou est-ce que je m'appuie dessus pour continuer à marcher? Maintenant, j'aimerais qu'on lise ensemble cette fois-ci dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, on va lire les 7 premiers versets. Et c'est là que nous allons pouvoir réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, en prenant appui sur la parole de Dieu, on doit prendre la victoire. Comme l'a dit Michael tout à l'heure, elle a déjà été remportée à la croix. Donc je suis libre. Je suis libre si je prends appui. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Je suis mort au péché. Est-ce que j'y crois ou pas? C'est toujours la même question que je vais poser. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Est-ce que j'y crois ça? Est-ce que j'y crois que ma vieille nature a été crucifiée? Parce que si j'y crois, je vais pouvoir m'appuyer dessus quand je suis tenté. Essayez de faire bouger un mort, vous pourrez pas. Vous pouvez le pincer, là, il va pas se réveiller, il est mort. Donc quand le diable essaye de nous attaquer et qu'on sait que La Bible dit que ma vieille nature est crucifiée avec Christ, et je suis en droit de ne pas réagir. Je continue. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Donc j'ai autorité sur le péché, si je m'appuie sur la parole. Deuxième texte, Matthieu 6, 25. On peut le prendre. On va voir différents domaines. Dans les choses matérielles, il y a des paroles. Il y a des paroles pour je pourrais prendre. Il y a foison de textes, si je veux, pour argumenter. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Rappelez-vous, on a lu tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que j'ai le droit de dire mon Père céleste. J'ai le droit de prier et de dire Père céleste. C'est mon Père. Et en tant que Père, il s'occupe de moi. Maintenant, la Bible dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'y crois ? Je reçois cette parole dans ma tête ? Ou est-ce que je m'appuie dessus ? Est-ce que je m'appuie en disant « j'ai des pensées qui me poussent à m'inquiéter pour tel ou tel sujet ?» On est tous sujets aux inquiétudes. Mais à un moment donné, un chrétien qui s'inquiète, cette parole, elle doit revenir assez vite. Et quand cette parole revient, c'est le Saint-Esprit qui nous la ramène, souvent. Eh bien, quand le diable veut qu'on s'inquiète, on lui dit « Eh, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. » Il est écrit. Mais là encore, je ne sors pas une parole du chapeau. Je dis la parole. Au diable, je lui dis « Il est écrit. » Mais derrière, je chasse toutes les pensées qui visent à m'inquiéter. Parce que sinon, c'est pas sérieux. Ça veut dire qu'on ne croit pas ce qui est écrit. Parce qu'on ne s'appuie pas dessus. La réception du Saint-Esprit, on va pas chercher tous les textes, mais la réception du Saint-Esprit. Acte 2, 38, pour ceux qui prennent des notes, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette parole ? Toujours la même question. Qu'est-ce que j'en fais de cette parole ? Est-ce que j'y crois ? Est-ce que je m'appuie dessus ? Dans la prière, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est même pas croyez que vous le recevrez, c'est croyez que vous l'avez reçu. La victoire a déjà été remportée, pour citer quelqu'un qui a parlé tout à l'heure. La victoire a été remportée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans la prière, je peux prendre appui aussi sur les paroles de Dieu. Dans les temps difficiles, c'est actuel, pourrait être justement sujet aux inquiétudes quand on regarde ce qui se passe. Et Jésus parle des temps difficiles, des temps de la fin, quand les disciples lui posent la question. Et on ne peut que constater que tout ce qui est décrit, Matthieu 24, Luc 21, on ne peut que constater que ce qui est décrit par Jésus, on le voit aujourd'hui. Or, il est écrit, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Donc, est-ce qu'il faut que je me morfonde de la situation de mon pays, de la vie économique qui va être compliquée, tout ça ? Non. La Bible m'invite à me redresser et à lever la tête. Vous savez, un juif qui se redresse et qui lève la tête, vous savez ce qu'il est en train de faire ? Il prie. Un juif qui est debout et qui la tête comme ça, voire même les bras levés, il prie. Donc Jésus nous invite à veiller. Jésus nous invite à faire attention alors que nous voyons toutes ces choses, à nous séparer de ces mauvaises choses et à nous plonger dans sa parole et à nous appuyer dessus. Pour prendre appui sur toutes ces paroles que nous venons de lire, il nous faut nous abandonner à celui qui les a prononcées. Vous savez ce que vous constaterez ? Que vous pourrez vraiment vous appuyer sur ces paroles parce que vous serez soutenu comme une chaise. Vous vous asseyez dessus, vous êtes en position de repos. Et voilà les conséquences de l'abandon. Voilà les conséquences du fait que je m'appuie sur les paroles de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ça ne s'arrête pas là. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, prenez appui sur mes paroles, je dirais, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le repos, celui qu'on appelle le repos de la foi, on ne peut l'obtenir que quand on s'appuie sur la parole. Quand il est écrit « Ne vous inquiétez de rien » et que je mets en pratique ce qui est écrit, que je crois sur parole, mais que je m'appuie dessus, ça veut dire que toute pensée d'inquiétude par la grâce de Dieu, j'arrive à les chasser. Il n'y a pas de mots pour décrire la paix qu'on ressent. Parce que toutes ces pensées-là chassées, ça fait du bien, laissez-moi vous le dire. De savoir comme un enfant sevré auprès de sa mère, dit la parole. C'est ça qu'on expérimente quand on s'appuie sur les paroles du Seigneur. Le problème, c'est qu'on veut pas. On veut pas. On croit pas ces paroles, on ne s'appuie pas. Le Seigneur te dit, assois-toi. Non, non, je veux pas m'asseoir. Bah, reste debout, tu vas te fatiguer. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, se posent la question. Ils ont des soucis, ils n'arrivent pas à se décharger, ils n'arrivent pas non plus à prendre la victoire sur des péchés. J'ai cité que quelques promesses, mais il y en a tellement dans la parole. Elles sont toutes écrites. Et on ne s'appuie pas dessus. On ne s'appuie pas dessus. Il nous faut nous appuyer. C'est seulement en nous appuyant sur ces choses que nous obtiendrons le repos. Jésus s'est chargé de nous libérer du péché. Il se charge de subvenir à nos besoins. Il se charge de répandre sur nous son esprit, si on le cherche de tout notre cœur. Il se charge de répondre à nos prières. Il nous a promis qu'il reviendrait chercher ceux qui se préparent. Mais ces chrétiens-là, laissez-moi vous dire qu'ils partiront dans un repos total. Ils ont eu le repos avant même d'être au ciel. On peut l'obtenir, c'est des choses que nous pouvons obtenir. Est-ce que je suis prêt à m'abandonner ? Une dernière référence, on va la lire ensemble. Romains, chapitre 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est les compassions de Dieu qui poussent à dire ces choses. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous abandonner à Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, il est question de s'abandonner à Dieu. On se donne à Dieu quelque part, mais quand on le fait, eh bien, Dieu peut se servir de nous. Parce que je m'abandonne complètement, il fait de moi ce qu'il veut. Et quand il fait de moi ce qu'il veut, moi-même je suis dans un plein repos parce que je suis dans les mains de Dieu. Et d'autre part, eh bien, je participe à son œuvre. Mais tout ça ne peut se faire que si je suis dans une stature de repos. Dieu ne peut rien faire avec des gens qui sont fatigués, avec des gens qui n'écoutent pas, avec des gens qui ne connaissent pas la parole. Ou alors, ils la connaissent là, mais ils ne s'appuient jamais dessus. Dieu ne travaille qu'avec des hommes et des femmes. Eh bien, qui croient ce qu'il dit. Imaginons simplement le cœur de Dieu. Alors qu'il nous dit qu'il ne change pas. Il nous dit que sa parole est éternelle. Il nous dit qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. Et que nous pouvons, je le rappelle, nous appuyer sur le bâton de la grâce pour nous relever quand nous tombons. Nous pouvons nous appuyer sur le bâton de la grâce le jour où on a peut-être cette culpabilité qui est là pour nous accuser alors qu'on est pardonné. Alors que Dieu nous a laissé des instructions dans sa parole pour notre bonheur, pour notre bien. Quand nous n'écoutons pas, quand nous ne prenons pas au sérieux ces paroles, quand je les lis, je suis juste d'accord mais que je ne m'appuie pas dessus, je suis désolé, je ne prends pas au sérieux ce qu'il dit. Et le cœur de Dieu est triste quand il me voit ne prenant pas ses paroles au sérieux. Quand il dit de ne pas m'inquiéter, c'est une réalité. C'est une réalité.